Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres et obéissant à la voix de sa parole. Amen. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. On est avec des paroles qui sont solennelles. Dieu parle. Et quand il nous invite, il nous apprend à prier. À la fin du Notre Père, Matthieu 6, verset 13, nous terminons ici comme une déclaration que nous reprenons à notre propre compte. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et dernier passage dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. C'est l'apôtre Jean qui reprend les paroles qu'il entend. Chapitre 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Amen. J'étais mort et je suis vivant. Ce n'est pas pour faire une déclaration de faiblesse, mais c'est pour faire une déclaration de victoire. Je suis allé dans la mort, la vaincre. Je suis ressuscité, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est l'alpha et l'oméga, l'amen. Voilà. Et amen, c'est le mot de la fin dans une conversation importante qui signifie, c'est assez complet amen en signification. Ça veut dire c'est ainsi, mais ça veut dire aussi c'est sûr, c'est comme ça. Et ça veut dire, je le déclare, et ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et quand c'est le Seigneur qui le dit, qu'il en soit ainsi, nous nous pourrions dire, et il n'en sera pas autrement. Voilà. Amen. C'est posé, c'est fini, on ferme la porte, et les clés sont dans la main de Dieu. Alors je vais vous prendre un exemple d'actualité, chrétienne évangélique, dans un pays du monde qui est resté longtemps fermé, qui est encore sous le régime communiste, avec des libertés qui sont accordées au lance-pierre, quoique il y ait des choses qui soient en train d'évoluer. C'est un pays dont 10% de la population est chrétienne évangélique. Et c'est à noter, dans un pays fermé, avec un régime totalitaire, communiste, aujourd'hui à Cuba, 12 millions d'habitants, il y a 1 200 000 chrétiens. Ce qui veut dire que, quand Dieu fait une œuvre, quand Dieu veut faire une œuvre, et il dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, on peut mettre en place le régime que l'on veut, avec les portes de fer que l'on veut, rien n'empêchera l'œuvre de Dieu de se faire. Et quelque part, c'est quelque chose qui doit nous parler au regard de la souveraineté de Dieu. Rien ne l'empêche de se réaliser, y compris dans un pays comme celui-là. 10% de la population. Les églises, comme pour dire que jusque dans le détail, Dieu maîtrise les choses, hein, comme il a réveillé l'esprit de Cyrus à un moment donné, les églises, et ça c'est le régime qu'il a établi, sont obligées de célébrer les cultes portes ouvertes. C'est une obligation. Du coup, des églises pleines qui louent le Seigneur et qui chantent, tout le quartier profite du culte. Les gens se convertissent parce que la loi oblige à ouvrir les portes pour célébrer le culte. et oblige à la présence d'officiers de police dans les rangs. Du coup, ils se convertissent aussi. Et le pasteur disait qu'à l'appel à la prière, certains, parmi ceux qui viennent, parfois, ils se sont rendus compte que quand les personnes se mettent à genoux, il est arrivé qu'il leur tombe un badge. Et c'était au badge, officier de police ou autre, reprenez-le monsieur. Et les gens étaient en larmes. Dieu est en train de faire une œuvre. À tel point que les églises ne sont pas suffisantes, alors les réunions de maison se sont mises en place et par endroits, il y avait 150 personnes dans la maison, avec ça débordait dans la cour, il y avait du monde partout. Donc le pasteur responsable de cette église de maison a été convoqué par la juge et la juge lui a dit, écoutez bien, monsieur, je vous oblige à subdiviser toutes vos réunions. Dès qu'il y aura plus de 15 personnes, vous vous réunissez dans une autre maison. La loi oblige aux réunions de maison, avec pas plus de 15 personnes. Du coup, les églises se multiplient de par la loi. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Mais il y a l'envers du décor, c'est que quand ils ont pu commencer à installer, pour certains pasteurs, les lignes téléphoniques, alors ils étaient, peut-être que vous vous en rappelez, alors ne souriez pas, parce qu'on n'est quand même pas des dinosaures, mais quand pour la première fois, on a eu le téléphone à la maison, vous en rappelez ? Regardez cet appareil, on attendait que quelqu'un appelle. Et que ça sonne. Et en l'occurrence, ça a sonné. Et quand le pasteur a décroché, il a entendu les services de surveillance qui disaient « On est là. On est là. » Clac. Voilà. Et ben, ils sont là, ils vont entendre les conversations de pasteur avec l'un ou l'autre, puisque la loi oblige à célébrer le culte porte ouverte. Et bien que le Seigneur bénisse les autorités et soyons soumis à la loi, puisque la loi oblige à limiter 15 personnes par réunion de maison, du coup 150, ça fait 10 maisons, et chaque fois qu'il y a 16 personnes, il faut une maison de plus. Voilà, quand Dieu est dans une situation, et c'est dans un pays qui est en train d'évoluer, c'est sûr, mais tout ça, ça s'est fait pendant que c'était fermé, verrouillé, et 10% de la population est convertie, née de nouveau. Alors, il est l'alpha et l'oméga, il est l'amen. Et quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et même si nous ne le voyons pas agir, il agit. Pendant que c'était fermé, il agissait, on ne le voyait pas. On en entendait bien parler, mais on ne pouvait pas passer là-bas facilement avec des valises et des bibles pour le leur apporter. Mais Dieu faisait son œuvre. Alors, on va extrapoler tout cela à nos situations, parce que peut-être que nous vivons notre propre Cuba. Nous sommes dans une situation fermée, pour une raison ou pour une autre. Et c'est difficile de faire passer des messages d'encouragement, de réconfort. Néanmoins, Dieu est à la commande. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. Et pour ceux qui ne relevaient pas de son œuvre, il est allé remporter la victoire. Et maintenant, il tient les clés de la mort et du séjour des morts dans sa main. Amen. Point final. Alors, on va prendre des exemples de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'histoire de Noé est révélatrice d'une maîtrise de Dieu. Dieu maîtrise ce qui nous dépasse et est de nature à nous engloutir, le déluge. Dieu maîtrise ce qui nous dépasse et qui est de nature à totalement nous engloutir. Quand on lit Hébreux chapitre 11, qui reprend une partie du récit de la Genèse, la base qui a permis à Dieu d'agir et de sauver cet homme, malgré le déluge qui allait tomber et que Dieu maîtrisait, c'est la crainte de Dieu. Noé était un homme qui craignait Dieu. Et c'est la base, et c'est la force de notre vie. Et on peut se retrouver à Cuba ou ailleurs, on peut se retrouver dans une situation difficile, et il nous reste, parce qu'en fait on n'a que ça depuis le début, on a la crainte de Dieu dans notre cœur. L'extérieur, on le subit, mais notre base et notre force est en lui, Dieu va agir. Noé est divinement averti de ce qu'on ne voit pas encore. Et cela relève de la grâce de Dieu de nous le révéler et de notre spiritualité d'être attentif, d'être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. La crainte de Dieu et la sensibilité à la voix de l'Esprit de Dieu, eh bien, va nous amener à vivre et à recevoir des paroles de grâce. Et de temps en temps, le Seigneur nous fera un clin d'œil, les choses vont se terminer. Le rideau de fer va tomber. Ce pays est en train de s'ouvrir. La situation dans laquelle vous êtes ne restera pas fermée à jamais. Le Seigneur est en train de travailler à l'intérieur comme pour miner quelque chose qui est fermé. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand ça explose, il y a tout qui part en morceaux parce que c'est fermé. Et le Seigneur est capable de faire sauter tout ce qui est fermé. Et l'obéissance de cet homme va amener toute sa famille au salut. Il va sauver toute sa famille sans exception, alors que la situation les dépasse tous et elle est de nature à les vaincre tous, à les engloutir tous, mais pas celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu va sortir de la situation, va être sauvé. Et si son obéissance est rajoutée à sa position spirituelle et rajoutée à la crainte de Dieu, alors il va arriver à sauver toute sa famille sans exception. Le nombre est donné. Tous les membres de sa famille, y compris les belles-filles, tout le monde est sauvé. Parce qu'un homme, dans une situation qui a englouti le monde, avait la crainte de Dieu. L'oreille sensible à ce que Dieu disait, parce qu'il fallait avoir l'oreille sensible pour entendre, construire une arche là où il n'y a pas d'eau. Comment ? Oui, construire une arche là où il n'y a pas d'eau, je vais te donner les plans de construction. Et il va obéir. Et le reste appartient à Dieu. Notre part est là, le reste appartient à Dieu. Et dans le déluge, un homme et toute sa famille a été sauvés. On passe à Moïse. Rien n'empêche, ni personne, son œuvre de se réaliser. C'est le moment de faire sortir le peuple d'Égypte. Pharaon peut penser ce qu'il veut, Pharaon peut dire ce qu'il veut, Pharaon peut consulter qui il veut, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la puissance de l'ennemi de nos âmes à tous. Rien ni personne n'empêche l'œuvre de Dieu de se réaliser. C'est le temps. Vous allez sortir. Et la preuve que c'est le temps que vous allez sortir, c'est qu'ils sortent avec un état d'esprit où parfois on pourrait se dire, mais Seigneur, est-ce que c'était vraiment le temps? Peut-être que la génération d'après aurait été plus enclin à t'obéir, à te suivre. C'est le temps. On est prêt, on n'est pas prêt, c'est le temps. Vaut mieux être prêt. Et eux, pour eux, ce qui est terrible, c'est qu'une génération va périr dans le désert, mais c'était le temps. Comme quoi, quand c'est le temps de Dieu, il faut que nous, on soit pas trop en retard, il faut qu'on soit prêt. C'est comme le train, hein. Le train, il ne vous attend pas. Vous allez l'attendre s'il est en retard, mais lui, quand c'est l'heure, il s'en va. Il pourra en prendre régulièrement quand vous avez des correspondances avec quelques minutes d'écart et que le premier accuse du retard, eh ben, vous courez. Hein. C'est là que vous vous rendez compte, il y a longtemps que vous ne courez plus. Vous courez, puis vous rentrez dans le premier wagon en se disant, ben, on s'expliquera après, l'important c'est d'être dans le train. Ça commence pour Moïse d'abord par la révélation, ensuite le don de la parole. Ça commence par une relation personnelle avec le Seigneur. Il a besoin de rencontrer personnellement celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais il n'est pas encore le Dieu de Moïse. Il est le Dieu des autres, il est le Dieu de ses ancêtres, c'est bien, il en est convaincu, mais maintenant il faut que ce soit vécu par lui-même. Et il va vivre cette révélation. Je suis l'Éternel. Je suis qui je suis. Il va comprendre autant que possible qui est celui qui se présente à lui. Et plus tard, il va recevoir le don de la parole. Et ça, c'est la base. Et à partir de là, ça va se déchaîner. Croyez que parce que Dieu veut faire son œuvre, le tapis rouge va se dérouler? Non. Même pour le Seigneur, il ne s'est pas déroulé. Alors, ce n'est pas pour nous que quelqu'un va le dérouler. Quand on veut marcher avec Dieu, assez rapidement, il y a de l'opposition. Et parfois, c'est le déchaînement. Et il faut tenir bon et tout supporter. Les 10 plaies d'Égypte, il y a plusieurs façons de les voir. Oh, des miracles extraordinaires, on a fait des films avec. Mais il y a une autre façon de les voir. Il n'a pas encore compris. Il s'oppose encore. Il faut tenir encore. Il ne comprend toujours pas, il s'endurcit. Et ça devient de plus en plus compliqué pour le peuple. Et vous vous retrouvez dans une position qui est difficilement tenable. Vous savez que Dieu veut délivrer, et ça se complique. C'est comme si c'était paradoxal. Et tout le monde de dire à Moïse, « Mais tu nous dis qu'il veut nous délivrer, regarde, arrête tout, qu'on en reste là. » Ben, mes frères et sœurs, c'est souvent un signe de la préparation de l'œuvre de Dieu finale, de la solution qui arrive à son terme, c'est qu'à la fin, en général, ça se complique, après c'est fini. Mais il faut tenir jusqu'au bout, parce que l'ennemi de nos âmes, il n'a qu'une latitude, il n'a qu'une marge de manœuvre, Et ce n'est pas extensible à l'infini. 10 plaies d'Égypte, il n'y en a pas 11, c'est fini. Maintenant, les premiers-nés tombent. Dieu ne voulait pas en arriver là, mais il a fallu en arriver là. Les premiers-nés tombent et maintenant vous allez sortir. On se retrouve devant la mer Rouge. Ne vous inquiétez pas, derrière, ils ne voient même pas où vous êtes. Et la mer Rouge va s'ouvrir, et vous allez traverser. Ne vous inquiétez pas, ça va être sec. Alors qu'en général, il y a de la vase. C'est sec, il passe, l'armée arrive derrière, elle se noie. C'est le temps de Dieu, ne vous inquiétez pas du comment et du pourquoi. Et c'est ce que va dire le psalmiste Asaph. À un moment donné, il regarde que la situation des autres va mieux, comparativement à la sienne. Et lui, il voulait servir Dieu et il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Jusqu'à ce que j'ai pris garde au sort final des méchants. J'étais à ton égard comme les bêtes, sans intelligence. Mais quand j'ai pris garde au sort final des méchants, j'ai compris qu'ici-bas, ma situation peut être difficile. C'est pas parce qu'elle est difficile que tu n'es pas là. Et c'est même l'inverse. Elle est difficile, il est là. Plus que jamais, il est là. Il est avec Moïse, il est avec le peuple. Et l'ange exterminateur va passer, c'est la Pâque, il va passer par-dessus. Tous ceux qui célèbrent la Pâque, et ça va tomber sur les autres. Voilà. Et maintenant, il faut s'engager, vivre la Pâque. C'est de l'ordre spirituel des choses. Et se mettre en marche vers le pays promis, et le Seigneur s'occupe de tous les obstacles. Notre souci à nous, quand bien même on serait dans l'esclavage, dans une situation terrible, eh bien le Seigneur va nous sortir de là. Les obstacles, il y en a eu, il y en aura, tant que nous serons sur la terre, c'est comme ça, c'est lui qui va s'en occuper. Il faut ouvrir la mer Rouge, c'est lui qui l'ouvre. Il faut régler la question des ennemis qui suivent, c'est lui qui la règle. Notre responsabilité, c'est de le suivre et d'obéir. Et quand le peuple ne suivra plus, n'obéira plus, et ce qui est terrible, c'est que ce peuple, c'est le peuple qui a reçu la parole. Les tables de pierre, c'est ce peuple qui a reçu les plans du tabernacle et ils l'ont construit. C'est le peuple qui a célébré Dieu dans le désert, mais le cœur n'y était quand même vraiment pas. Et attention de ne pas nous retrouver de temps en temps dans des situations paradoxales. Nous avons tout, mais notre cœur n'y est pas. Le Seigneur peut régler tout, sauf l'état de notre cœur. Ça, c'est notre responsabilité, c'est notre affaire. Le reste, c'est lui qui le règle. Et il y a des géants en Canaan. Ne vous inquiétez pas, vous avez oublié déjà l'Égypte. C'était pas géant l'Égypte, après 430 années d'esclavage, mais j'aurais réglé l'affaire des géants 40 ans plus tôt, ben je la réglerai 40 ans plus tard. Peu importe. Le Seigneur, de temps en temps, s'adapte à notre calendrier parce que c'est nous qui mettons les dates. Et c'est pas lui. Voilà. On passe au Nouveau Testament. Jésus vient pour triompher du mal à la croix. Du début jusqu'à la croix. Et dès sa naissance, le mal s'acharne contre lui. Quand on y pense, dès sa naissance, tout est difficile. Parce que c'est comme si on ne voulait pas qu'il soit là. Et certaines personnes... C'est comme si, alors on le dit comme ça, si elle était née sous la mauvaise étoile. On ne sait pas trop pourquoi. Pour Jésus, on le comprend. Mais dès sa naissance, le mal se déchaîne. Il n'y a déjà personne pour l'accueillir à la naissance. De suite, il faut fuir en Égypte pendant un certain nombre d'années, puis revenir. Voilà. Dès sa naissance, le mal s'acharne contre lui. Dès qu'il commence son ministère, il va falloir tout vaincre, étape par étape, pour nous libérer à nous de ces problèmes dans lesquels nous tombions, de la tentation jusqu'à la croix. Il va remporter la victoire, étape après étape, étape après étape. Rien n'empêche le Seigneur de remporter les victoires pour notre compte, et nous n'avons qu'à le suivre finalement. Il va jusque dans le séjour des morts, parce qu'à cause du péché, c'était l'aboutissement d'une certaine trajectoire. Et cette trajectoire, il a fait les travaux qu'il faut, stop! On revient sur le chemin de la vie éternelle. Et lui, il est allé jusque dans la mort pour la vaincre et pour pouvoir dire « Je suis le premier, le dernier. J'étais mort, je suis vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » C'est fini. Et il nous prépare une place au ciel. Mais ça, c'est extraordinaire. Quand le Seigneur a décidé de faire quelque chose, il le fait. Et jusque dans le ciel... Il est en train de nous préparer une place. Et je termine avec Paul. Paul, dans cette situation qu'il amène à Jérusalem, se retrouve dans une galère. Et j'ai mis comme ça, entre parenthèses, on est dans la même galère, qui va s'échouer. C'est l'état du monde, c'est la situation ambiante. On est tous dans la même galère qui va s'échouer, mais nous, on sera sauvés. Paradoxe, dans une galère qui va s'échouer, on peut être sauvé. Parce que Dieu prévient, mais le monde n'écoute pas. Prenez pas la mer, c'est pas bon. Ah, tu connais rien. On maîtrise nos vies. Un vent léger du sud vint à souffler, se croyant maître de leur destin. C'est écrit comme ça. Mais ça, c'est le résumé de l'humanité. Un petit coup de vent du sud, léger, un brin de soleil. Ah, ben ça va, vous voyez, finalement, on n'a pas besoin de Dieu. Tout ça, ce sont des histoires. Et d'un seul coup, la tempête se lève à tel point qu'il va falloir ceindre le navire et puis perdre tout espoir de se sauver par eux-mêmes. Ils se laissent emporter par le vent. Et c'est la réalité du monde aujourd'hui. On a ceint le navire, on a déjà perdu pas mal de choses, et puis on ne maîtrise plus rien, on se laisse emporter par le vent qui souffle, les flots qui ballottent. On a l'exemple encore à la télévision avec ce cargo qui, on essaie de l'attraper, mais il va direct sur l'embouchure, on ne sait pas trop où il va atterrir. Et voilà. Tout le monde a quitté le navire parce qu'on se croit maître de son destin. Mais le Seigneur parle toujours. Et aujourd'hui, il dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage. On est tous dans la même galère qui va échouer. Mais je vous exhorte à prendre courage. Aucun de vous ne se perdra. Parce que le Dieu auquel j'appartiens m'a parlé. Et il a fait son œuvre. Et il m'a dit que. Et nous, ce matin, bien, nous sommes là, dans une situation qui pourrait être une galère en perdition. Et le Seigneur de dire à quelqu'un, je vous exhorte à prendre courage. Il n'y aura de perte autre que celle du navire. C'est fini. Il est souverain. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Vous pouvez peut-être rajouter ça sur un mur. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, on va terminer avec un texte que je n'ai pas donné. Alors, peut-être le faire rapidement. Psaume 31, 16. Psaume 31, 16 à 18. Et ça vous obligera peut-être à ouvrir vos Bibles avec les feuilles papier. Psaume 31, versets 16 à 18, et ce sera la main finale. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Amen. Mes destinées sont dans ta main. Que le Seigneur soit béni.